appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale CPI renforcent leur niveau de collaboration à travers un protocole d'accord signé jeudi 1er juin à Kinshasa entre la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, et le procureur de la CPI, Karim Khan. Cette signature s'est faite en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce dernier a exprimé sa volonté de coopérer avec le bureau de la CPI de manière active et dynamique vers des idéaux de justice et de paix. Dans la suite de cette signature, Karim Khan reconnaît d'emblée que le pouvoir de Kinshasa accomplit déjà beaucoup d'actions dans le sens de dire la justice en faveur des victimes, quand bien même il y a assez qui continuent encore à attendre. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mimi Kindoa sur la mise en onde de ce magazine, Kipiro et la Menji, j'ai le réel plaisir de vous présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
L'équipe du magazine Dialogue entre Congolais débarque à Kalemie, province du Tanganyika, la semaine du 5 juin 2023 pour une série d'émissions grand public. Au menu, la crise politique et sécuritaire qui secoue la province, la situation socio-économique ainsi que l'évaluation du projet conjoint d'appui aux ex-combattants et communautés pour la réinsertion socio-économique. Merci de nous rejoindre ce mardi 6 juin dans la salle VIP et mercredi 7 juin 2023 dans la salle Picagel à partir de 10h pour participer à ces deux productions de votre émission DEC. Dialogue entre Congolais en direct de Kalemie au Tanganyika sur la FM et du live Facebook pour nous rapprocher davantage de nos auditeurs et internautes. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Et nous recevons dans ce studio Maître Jean-Claude Katende, président Azado et président aussi de Fédération internationale des droits de l'homme. Je pense bien, Maître. Bonjour.
Bonjour. En fait, Pierrot, je suis président national de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, Azado. Mais vice-président de la FIDH.
Voilà, Fédération internationale des droits de l'homme.
Tout à fait.
Et nous parlons de le renforcement de cette coopération entre la RDC et la Cour pénale internationale. Est-ce que c'était important qu'on le fasse? Est-ce que dans le contexte actuel, la RDC et la CPI devraient-ils le faire? Est-ce qu'il y a le besoin pour le faire?
Je pense qu'il faut féliciter d'une part le procureur qui s'est transporté lui-même en République démocratique du Congo, qui ne s'est pas contenté de rester à Kinshasa, qui a pris cette décision de se rendre dans certains milieux où certains crimes ont été commis pour pouvoir, n'est-ce pas, s'imprégner lui-même de la situation, mais aussi pour rencontrer les victimes et échanger avec elles. Et en même temps, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement pour avoir pris cette initiative de mener une diplomatie qui a conduit à cette venue du procureur. Mais la question que vous posez, elle est très importante. Vous savez que depuis une trentaine d'années, la République démocratique du Congo a été le théâtre de beaucoup de crimes. Crimes de sang, crimes économiques, disons des crimes de toute nature. Mais quand vous regardez l'ampleur de crimes qui ont été commis par rapport à la réponse qui a été donnée par la justice nationale, comme aussi la justice internationale, on peut arriver à la conclusion que nous vivons encore l'impunité parce que la majeure partie de ces crimes n'ont jamais été sanctionnés. Et donc, nous sommes aussi conscients qu'il y a des crimes qui ne relèvent pas de la compétence de la CPI, d'autant plus que les statuts de Rome sont entrés en vigueur en 2002, et que ces crimes qui ont été commis avant ont besoin aussi d'être sanctionnés par la justice nationale comme la justice internationale. Mais pour le moment, les crimes qui ont été commis par les groupes armés et d'autres forces à l'est de la République démocratique du Congo méritent une réponse rapide de la part, de la justice internationale, dans la mesure où nous tous nous constatons que une force comme les M23 qui est dotée des moyens militaires, comme on l'a dit, plus importants même que l'armée régulière, on ne peut pas, la justice congolaise n'est pas à mesure
de pouvoir juger exactement.
Non seulement de juger, mais de mettre la main
sur les criminels.
Sur les criminels. Et donc, la coopération, dans le cas où la justice nationale devient impuissante, incapable de poursuivre les auteurs de certains crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, parce que nous savons tous que c'est une juridiction complémentaire. En ce moment-là, la Cour pénale internationale peut s'intéresser à ces crimes, même si nous savons que la Cour pénale internationale ne prendra pas tous les crimes qui ont été commis après son entrée en vigueur, mais il y a quand même des crimes emblématiques dont nous pensons qu'il est important aujourd'hui de s'occuper.
Alors, le procureur s'est rendu en Ituri. On sait que la CPI en RDC, ça commence avec de procès ou de ressortissants de la province de l'Ituri qui est impliqué dans les recrutements d'enfants, dans tous les autres crimes qui se sont commis en Ituri, ont été arrêtés, jugés, condamnés à la Cour pénale internationale. Et après, l'Ituri se retrouve encore au centre des atrocités encore graves. Le procureur estime qu'il faille encore revenir là-dessus pour que les criminels soient punis. Il n'y a pas seulement ça, vous avez parlé du M23, il y a des groupes armés, mais dans la configuration régionale, pensez-vous aujourd'hui que la coopération soit facile, par exemple pour que des criminels qui se réfugient dans des pays voisins et que ces pays puissent facilement les livrer à la Cour pénale internationale, quand on sait que le Rwanda par exemple ne fait pas partie de ceux qui ont signé ces statuts et qui puissent livrer des criminels qui se réfugient sur son sol par exemple?
La question, elle est importante, voire même cruciale. Mais je pense qu'il est important qu'on arrive d'abord à identifier tous les criminels par rapport aux crimes graves qui ont été commis en Ituri comme à l'est de la République démocratique du Congo. Et que des mandats soient lancés contre ces personnes pour que nous sentions que la justice internationale se met en branle pour pouvoir mettre la main sur ces individus. Nous sommes aussi convaincus que le Rwanda ne pourrait pas livrer certains auteurs des crimes internationaux. Mais nous croyons aussi que les autorités rwandaises qui sont là aujourd'hui, c'est sûr que un jour, elles ne seront plus là pour mener la même politique de protection de tous ces individus, tous ces criminels qui ont commis des faits répréhensibles en République démocratique du Congo. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les criminels de nationalité congolaise pourraient être poursuivis facilement en attendant qu'un jour ou un autre commettent la main sur les criminels d'autres nationalités.
Alors, parce que vous parlez des criminels ressortissants de la RDC, je parlais tout à l'heure de la province de l'Ituri qui a connu des pires atrocités dont certains auteurs ont été jugés condamnés par la CPI. Aujourd'hui, on revient là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que les condamnations des personnes qui ont commis des crimes en Ituri par la CPI ces condamnations n'ont pas eu d'effet pour que les personnes reviennent encore à la charge aujourd'hui et continuent à commettre des atrocités. C'est comme si la justice n'a pas eu d'impact pour enseigner les autres personnes qui prennent encore des armes et qui continuent encore à faire couler autant de sang dans la province de l'Ituri.
Il est clair pour moi que le travail qui a été fait par la Cour pénale internationale a pris en compte les individus les plus importants.
Mmh.
Il aurait fallu que ce même travail soit fait aussi par les tribunaux, les cours des tribunaux congolais, pour que tous ces gens qui ont participé à quelque niveau que ce soit sanctionnés par la justice congolaise. Est-ce que la justice congolaise a fait ce travail? Je dis non. Un autre aspect, c'est que il y a le fait de rendre une décision, comme la Cour pénale l'avait fait à l'égard de certains ressortissants de l'Ituri. Mais il y a des raisons qui poussent ces gens à se comporter de cette façon-là. Il aurait fallu qu'il y ait des programmes d'éducation de citoyens de l'Ituri par rapport à comment on règle, comment on gère les problèmes dans une société.
Mm-hmm.
Mais vous savez aussi que il y a cette question de coexistence pacifique entre les différentes tribus qui doit pouvoir être le cheval de bataille du gouvernement congolais, non seulement pour l'Ituri, mais pour l'ensemble de notre pays.
Mm-hmm.
Parce que si vous voyez tous les conflits interethniques qui émergent aujourd'hui ont besoin d'être résolus, non pas seulement par la décision judiciaire, mais aussi par l'éducation et la formation des populations.
Mmh,
et
ouais.
Au-delà de ça, il faut aborder la question du développement. La plupart de ces jeunes qui se font recruter, ils n'ont pas de perspective. En fait, ils n'ont pas... Et ils n'espèrent rien du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a pu créer de l'emploi, mener ces actions qui permettent aux gens de croire dans le gouvernement et de dire que ce n'est pas nécessaire de prendre une arme, mais qu'on peut trouver du travail. Tous ces programmes économiques et sociaux qui pouvaient aider les gens à voir une autre perspective n'ont pas été mis en place. Et je crains que après qu'on ait fait appel par cet accord à la Cour pénale internationale, que nous puissions retomber dans les mêmes problèmes. Ça, c'est un aspect. Mais un aspect aussi important, c'est la manipulation de tous ces mouvements par certains politiciens basés à Kinshasa. Ça, on l'a dit plusieurs fois. La plupart des conflits ethniques sont des conflits entre plusieurs tribus, sont des conflits alimentés par des discours politiques, par des ressortissants des mêmes provinces qui sont en politique aujourd'hui et qui opposent les populations. Ça aussi, c'est une question sur laquelle je pense que la justice congolaise doit avoir du courage de mener des enquêtes et d'identifier ces individus, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur appartenance tribale, les interroger et éventuellement les juger et les condamner. Vous allez vous rappeler que M. le Président de l'Assemblée nationale avait demandé à certains députés à un moment donné de quitter les groupes armés. Ces groupes armés ont le soutien de certains partis politiques, de certains responsables politiques, et ce qui est grave, sont des responsables des mêmes provinces. Je crois que là aussi, il faut que la justice fasse son travail.
Voilà.
Et qu'au niveau politique, on sente aussi qu'il y a un engagement à se désolidariser, quelle que soit leur popularité, de ces ressortissants de ces provinces qui continuent à alimenter les conflits interethniques.
Voilà. Nous allons retourner de l'autre côté du studio. Il y a Junior Bompongo qui est à Kinshasa, Jules qui est à Bukavu, Marie-Paul à Kisangani et Dieudonné à Kinshasa. Nous allons vous accorder la parole. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez désormais réagir dans cette émission en déposant sur notre répondeur votre message audio après la publication du sujet sur la page Facebook jusqu'au retour des lignes téléphoniques normal. Junior Bompongo, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Moi, je pense que la reconnaissance des Karmi Kane ne doit pas être utilisée pour minimiser les problèmes persistants, mais plutôt pour montrer que les progrès sont réalisés, même si des efforts supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux besoins et aux préoccupations des victimes. Par ailleurs, connaissant les maux qui rongent notre justice, comme par exemple l'impunité, cela ne doit pas se limiter à des mesures ponctuelles, mais doit être profondément ancré dans une réforme globale pour garantir une justice équitable, impartiale et accessible à tous les Congolais.
Nous avons Jules qui nous appelle de Bukavu. Jules Manguené, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je suis Liron de m'avoir accordé la parole à cette émission. Alors d'entrée de jeu, je voudrais d'abord dire que la RDC fait partie des pays membres de la CPI et c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de collaboration avec la CPI. Ce n'est pas un problème, mais la question que je suis en train de me poser moi personnellement, c'est celle de savoir, aurons-nous une crédibilité à cette instance judiciaire du niveau international? Moi je pense que c'est non. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que nous devons d'abord en interne avoir une justice qui est équitable, une justice qui est indépendante. Et dès lors que nous jetons une œillade à notre justice, vous verrez que notre justice est instrumentalisée. Nous ne reflétons pas un pays de droit, comme on le dit, qui devient aujourd'hui un slogan. Et là, au niveau des partenariats avec la CPI, nous aurons des problèmes de nous imposer, selon ma façon de voir les choses. Alors, nous devons d'abord nous concentrer ici à l'interne, avant de vouloir nous mouvoir dans d'autres instances au niveau international. Quand je vois l'hypocrisie qu'a cette instance, donc la CPI, c'est les rapports mapping que le docteur Denis Mukwege appelle tous les jours la justice internationale, de mettre donc tous ces rapports en application, donc en sanctionnant les bourreaux de tous les actes immoraux qui ont été commis ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous verrez que la CPI reste stérile dans ce cas, et alors nous renforçons les partenariats avec lui. Moi je ne pense pas que c'est maintenant que la CPI va activer sa volonté afin qu'elle puisse nous aider à trouver des solutions à ce genre de problèmes.
Alors, merci. Jules, vous estimez qu'il y a trois choses que vous soulevez. Vous estimez que la justice, notre justice doit d'abord faire beaucoup d'efforts pour être équitable, indépendante. Et puis, vous souhaitez aussi que la CPI s'occupe, c'est une question que j'allais poser tout à l'heure à notre invité sur le rapport mapping, la création d'un tribunal pénal international. Beaucoup de gens reviennent là-dessus, le président de la République l'a dit, faudra-t-il des chambres spéciales? Et vous estimez que la CPI, si elle ne peut pas se saisir du cas du rapport mapping, rappelons quand même que cela remonte avant peut-être la création de la Cour. Alors on va écouter Marie-Paul qui est à Kisangani. Marie-Paul, bonjour.
Bonjour, c'est les journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Il n'en reste pas moins vrai que la République démocratique du Congo est un État signataire des statuts de Rome, statuts créés à la CPI. Par voie de conséquence, ce pays reconnaît bel et bien la compétence de la Cour pénale internationale qui, du reste, réprime les crimes contre l'humanité, les crimes graves, les crimes contre l'humanité et consorts selon ses compétences explicites que peuvent commettre les individus. D'une analyse stratégique, la signature des renforcements de coopération entre la RDC et la CPI constitue à la fois une stratégie de dissuasion, une sonnette d'alarme à tous les individus de ne pas tomber dans la commission des crimes relevant de la compétence de la CPI au risque d'être vu, poursuivi par cette organisation judiciaire international. La RDC doit aussi, au niveau interne, réorganiser son administration judiciaire en fait de renforcer le temps des droits qui est aussi parmi les piliers de la gouvernance ou de la présidence actuelle. C'est alors qu'on va arriver à être à l'abri de toute commission d'infractions graves qui touchent les droits de l'homme, ainsi de suite. Et voilà, de mon point de vue, je soutiens cette signature-là ou ce renforcement des capacités entre la RDC et la CPI. Et parce que ces renforcements permettent donc chacun à se contenir, à ne pas commettre des crimes qui sont punissables, des crimes qui relèvent bien évidemment de la Cour pénale de justice, et aussi les gens vont perdre lorsque les cours et tribunaux internes vont également bien fonctionner et que nous serons dans un état où l'état des droits va régner au maître. Voilà ce qu'il faut dire. Merci.
Alors on va écouter aussi Dieudonné qui est ici à Kinshasa et revenir dans ce studio pour un commentaire de notre invité. Dieudonné, bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi. Monsieur Pierrot, donc le procureur dans son message qu'il a eu à lancer, il dit « Nous devons trouver une nouvelle manière de travailler, pas la même que celle que nous avons depuis 2004. » Donc, il reconnaît et il est conscient que leur mission en RDC depuis 2004 n'est pas accomplie. Je ne sais pas si le gouvernement y a évalué l'existence ou bien la part de la CPI en RDC depuis 2004 jusqu'à nos jours. Je ne sais pas si le gouvernement y a évalué quand même ce partenariat-là. Et aujourd'hui, le partenariat est renouvelé encore. Ce partenariat est renouvelé encore. Et le procureur nous promet qu'ils vont travailler pas dans la même manière que celle de 2004. Qu'est-ce qui va nous garantir? Qu'est-ce qui peut nous garantir qu'il y aura des bons fruits? Il y aura la justice, il y aura la paix à l'est du pays. Et moi, je ne suis pas content de ce que le procureur aille à reconnaître que non, le pouvoir de Kinshasa accomplit déjà beaucoup d'actions dans le sens de dire la justice. En faveur de quoi?
Alors pour vous, Dieudonné, vous estimez d'abord qu'il faille évaluer l'action, la coopération entre la RDC et la CPI. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Et vous n'êtes pas d'accord quand le procureur estime que la RDC a fourni beaucoup d'efforts, quand bien même il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites parce que les atrocités continuent. Alors, maître Jean-Claude Katende, on revient à vous. Alors, si je peux regrouper les préoccupations de nos auditeurs, il y en a qui souhaitent la réforme de la justice nationale, il y en a qui estime qu'il faille vraiment faire une évaluation de ce qui est dans de la coopération entre la CPI et la RDC depuis. Mais il y a notre ami qui a évoqué le rapport mapping. Rappelons quand même que ce soit les prix Nobel de la paix et Denis Mukwege, même le président de la République est revenu sur ça, souhaitant qu'on ait une justice internationale qui puisse vraiment se saisir plutôt de ces cas. On a même pensé à un tribunal pénal international, on a pensé à des chambres spéciales. Alors comment vous pouvez répondre un peu à toutes ces préoccupations de nos compatriotes?
Merci, mon cher Pierrot. Je pense que de toutes les préoccupations des auditeurs qui sont intervenus, il faut dégager une idée qui est constante. C'est le fait que tout le monde a besoin de voir la justice congolaise faire ce travail.
Exact.
Ça, c'est l'idée fondamentale. Parce que nous ne pouvons pas être une nation qui se remet aux autres institutions, même si nous y sommes membres. Notre travail, notre devoir, nous le remettons aux autres. Sur le plan judiciaire, nous nous référons à la Cour pénale internationale. Sur le plan sécuritaire, nous nous référons à des armées des pays voisins ou de certaines communautés. Nous devons, aujourd'hui que la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance depuis plus de 60 ans, je pense qu'il est quand même temps que nous puissions, je dirais dans des termes simples, grandir, c'est-à-dire être nous-mêmes capables de résoudre certains problèmes. Et dans ces questions, la justice doit être au centre. Et la justice congolaise, le président de la République l'a déjà dit à plusieurs occasions, n'a pas été à même d'aider cette nation à se tenir debout. Les magistrats, beaucoup des magistrats, je ne dirais pas certains, beaucoup des magistrats sont corrompus, et on le sait, et il faut qu'à ce niveau-là, la réforme, non seulement au niveau de loi, mais aussi au niveau des animateurs de toutes ces institutions judiciaires, puissent avoir lieu. Est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas droit à des magistrats intègres, à des juges intègres? Ce qui se passe, c'est que dans la plupart des cas, dans l'appareil judiciaire, les magistrats et les juges qui sont intègres sont isolés, sont totalement abandonnés. On ne leur confie pas les dossiers qu'on appelle des dossiers juteux, les dossiers importants, ils ne sont pas pris en considération. Et donc, il revient au gouvernement de la République démocratique du Congo d'identifier ces magistrats honnêtes et intègres, ces juges honnêtes et intègres, pour pouvoir leur donner une certaine visibilité. Dans la plupart des cas, ce sont les magistrats véreux et les juges véreux qui ont une grande visibilité, qui se prennent pour des personnalités importantes, alors que si vous suivez de manière permanente la manière dont ils travaillent, ils sont totalement à côté de ce qu'on attend des animateurs, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire. Et donc le besoin ici de tous les Congolais qui sont intervenus, c'est de voir que la justice congolaise fonctionne, parce que ce travail, avant d'être le travail de la CPI, c'est d'abord notre propre travail. Exact. Et comme je l'avais déjà souligné, il est clair que la CPI, qui s'occupe de plusieurs situations à travers le monde, ne va pas se focaliser sur toutes les violations graves, sur tous les crimes internationaux qui ont été commis en République démocratique du Congo. Maintenant, en ce qui concerne le rapport Mapping, nous devons être tous d'accord que ce rapport ne concerne que l'infime partie de ce qui est arrivé en République démocratique du Congo, c'est-à-dire les violations de droits humains de 1993 à 2003. Ça fait 10 ans. Mais de 2003 à aujourd'hui, nous avons encore 20 ans où nous avons vu que presque dans beaucoup de provinces de la République démocratique du Congo,
des crimes graves ont été commis
graves
et continuent à se commettre.
Et continuent à se commettre. Et ce qui est encore grave, c'est que dans ce pays, on a même promu à des postes importants les personnalités qui sont identifiées dans le rapport Mapping. Et donc, aujourd'hui, le président de la République doit se mettre en tête que s'il veut vraiment que la justice fonctionne, il ne devra pas nommer les personnes qui sont mises en cause dans le rapport Mapping. Au moins sur le plan politique, nous pouvons dire qu'il y a une sanction, que ces personnes sont isolées. Mais si on continue, comme à l'époque du président Kabila, il y a eu des ministres qui sont en fait dont les faits, certains faits mentionnés, parce que les rapports Mapping ne donnent pas les noms des individus, mais à partir des faits qui sont décrits, nous qui suivons la situation des droits de l'homme, nous savons que tel et tel sont concernés par ce rapport. Or, ces gens ont été nommés sous le président Kabila à des postes de responsabilité, comme si on ignorait que ces gens ont fait pleurer les Congolais par des crimes graves. Sous le président Tshisekedi, il y en a quelques-uns qui ont été aussi nommés. Et donc, on veut quoi finalement? Si on veut que les choses changent, il faut qu'on le sente. Il ne faut pas seulement qu'on demande à la justice d'agir au moment où les politiques font le contraire de ce que le Congolais aurait souhaité. Nous souhaiterions voir toutes ces personnes au bas de la société. Être vraiment mises de côté et qu'elles ne continuent pas à avoir une visibilité étatique qui pourraient montrer que les faits qu'ils ont commis à l'époque n'ont aucune importance. Maintenant, pour couvrir toutes ces questions depuis 93 jusqu'à aujourd'hui, ce qui est important pour moi est qu'on trouve une réponse. Mmh. Une réponse en termes de lutte contre l'impunité, une réponse en termes de la sanction, mais aussi une réponse en termes de prise en compte des besoins des victimes, des réparations, qu'elles soient individuelles ou collectives, mm-hmm. mais que les victimes se sentent prises en compte et considérées. Voyez par exemple ce qui s'est passé avec la guerre des six jours à Kisangani. J'ai rencontré certaines victimes ici. Il y a un fonds qui leur avait été donné par le gouvernement. On a donné seulement une partie. Jusqu'à ce jour, la dernière partie de solde n'est jamais payée. Et il y a une soixantaine de frères et sœurs de Kisangani qui sont ici abandonnés totalement par le gouvernement. Abandonnés totalement par le gouvernement, abandonnés totalement par nos autorités, mm-hmm. alors qu'elles sont venues dans cette ville pour recouvrer les soldes du fonds que le président de la République leur avait promis et que le gouvernement avait concrétisé. Et donc, si déjà nous-mêmes, dans notre propre attitude, mm-hmm. en tant que gouvernants, nous ne prenons pas en compte la question des victimes, qui va le faire alors? Mm-hmm. Pourquoi les victimes de la guerre des six jours à Kisangani n'ont pas encore obtenu leur fonds jusqu'à aujourd'hui? Donc, nous devons avoir une certaine cohérence mm-hmm. dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, la réponse qui doit être donnée, si elle est nationale et qu'elle prenne en compte toutes les questions, toutes mm-hmm. ces violations graves de droits humains, c'est une bonne chose. Mais si on pense que compte tenu des ramifications de tous ces crimes dans les pays voisins, je pense que la réponse internationale conviendrait. Et cette réponse peut être une réponse des chambres mixtes ou des chambres spécialisées mm-hmm. ou du tribunal international, mais nous ne devons pas nous leurrer. Au vu du nombre de personnes qui ont été tuées à cause par ces crimes, la communauté internationale devrait se mouvoir. Mais nous savons aussi qu'il y a des puissances internationales qui sont impliquées dans les crimes qui ont été commis à l'est de la République démocratique du Congo.
Et là, ça devient difficile carrément, ou pas difficile, peut-être ça prend du temps pour que les lignes bougent pour la mise en place de la justice internationale.
Exactement, ça prend du temps parce que nous ne sommes pas sans oublier qu'il y a des puissances internationales qui sont impliquées, mais il y a aussi des entreprises multinationales qui ont été derrière toutes ces forces qui ont commis des faits en République démocratique mmh. du Congo. Mmh. Maintenant, il est question pour nous que le gouvernement ait une politique par rapport à cette question, c'est-à-dire en organisant une diplomatie forte mm-hmm. pour que cette question Merci. Soit prise en compte.
Voilà. Alors nous rentrons de l'autre côté du studio avec Maître Edmond, Sylvain, François et Mina Mwanda qui est à Bukavu. Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
En tant que citoyen congolais et auxiliaire de la justice, je salue la présence du procureur de la CPI, M. Karim Khan, de notre pays, notamment à Kinshasa et dans la partie est du pays. C'est vraiment historique de voir sous la présidence du président Tshisekedi Tshilombo Félix, de voir la première autorité du parquet près de la Cour pénale internationale défouler ses pieds dans un pays où les crimes contre l'humanité sont devenus la monnaie courante des groupes armés et miliciens en complicité avec certains pays voisins, je cite le Rwanda. Je suis très heureux, étant donné qu'il a déploré lui-même la permanence des exactions et a par ailleurs prôné une autre manière de travailler en concertation avec les autorités congolaises et la communauté internationale pour lutter contre les crimes de guerre. Il est vrai qu'en vertu du principe de la complémentarité, les États membres de la Cour pénale internationale conservent à titre principal la responsabilité de poursuivre et juger les crimes les plus graves tels que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression et crimes de génocide. La Cour pénale internationale n'exerce pas sa compétence si un tribunal national a la capacité et la volonté d'exercer la sienne. Mais pour la République démocratique du Congo, avec l'accord signé entre Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avec le procureur de la CPI, le gouvernement congolais est alors appelé à livrer sans atermoiement tous les bourreaux des crimes contre l'humanité commis à l'est du pays et tous les commanditaires des attaques dans toutes les provinces du pays où il y a des conflits ethniques, que ce soit à l'est du pays, que ce soit dans la partie sud ou ouest du pays aussi. Il est temps que nous puissions arrêter cette hémorragie, livrer tout suspect, tout commanditaire, tous les bourreaux devant la CPI, afin qu'ils répondent de leurs actes.
Voilà. Alors, vous souhaitez qu'il y ait vraiment cette collaboration honnête aussi du gouvernement congolais, qui soit capable de pouvoir livrer tous les criminels. On sait ce qui s'est passé aussi dans les passés récents pour que la RDC livre certaines personnes à la Cour pénale internationale. Alors, on va écouter Sylvain qui est à Kisangani. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour, la Radio KP. Nous saluons le protocole d'accord que venait de signer le procureur et le ministre, madame ministre de la Justice. Parce que dans cette affaire de l'Est, nous avons le sentiment de joie de voir la justice faire très bien son travail. Parce qu'on ne peut pas laisser impunis les gens mal intentionnés qui ont mis en péril la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents et nous saluons ce protocole d'accord et nous voudrions que la dame ministre de la Justice qui présente les pays mène des enquêtes également de bien soutenir son action devant la CPI pour que les auteurs de cet acte répondent réellement de leurs actes devant la justice. On ne peut pas aller en justice puisqu'il faut aller en justice. Il faut aller en justice puisqu'en justice, quand on allègue les faits, on doit nécessairement le prouver. Et il faut prouver avec des éléments probants. Ah, donc il faut réunir toutes les preuves possibles pour que, en soutenant cette action en justice, que les faits soient réellement établis et que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice.
Alors, nous avons aussi François qui nous appelle de Chikapa. Et vous avez souhaité que le gouvernement, la ministre de la Justice, aille plus loin. On va revenir à tout à l'heure avec notre invité sur la question même de la coopération et de la volonté de pouvoir livrer des criminels, quand bien même on peut signer le protocole d'accord. François, vous êtes à Chikapa. Bonjour.
Par rapport à cette thématique, monsieur le journaliste, je ne trouve pas de l'importance par rapport... dans la collaboration de la République du Congo avec la CPI en matière de la justice internationale pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Si souvent les gens qui commettent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ce sont des politiciens qui aujourd'hui justement privilégient les relations de la justice internationale. Mais demain, après leurs affaires, ils se verront coincés par la même cour, parce que le chef de l'État qui sera au pouvoir ou le gouvernement qui sera installé, peut-être qu'il ne partagera pas le même point de vue qu'est aujourd'hui. Bon, voilà la raison pour laquelle je ne veux pas forcément la souscription de la République du Congo à la CPI. Il avait fallu justement renforcer l'État des droits et renforcer la justice congolaise d'une manière indépendante, d'une manière impartiale, qui comptait sur la CPI. Au jour d'aujourd'hui, la RDC est confrontée à plusieurs contestations, manifestations populaires, manifestations de la rue. Ce qui se font aujourd'hui, les arrestations, l'ouverture des balles réelles. Demain, ça peut rattraper les dirigeants actuels. Attention, c'est compliqué là. En fait.
Voilà, merci beaucoup. Alors, vous êtes revenu, François, sur la question de le renforcement de la justice congolaise. Hein. Alors, on va écouter Emina qui est à Bukavu et on revient à Maître Jean-Claude Katende pour réagir rapidement et on va aussi rentrer pour le dernier groupe d'auditeurs. Emina, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour à Radio Okapi, bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe des Paroles aux auditeurs.